Nous sommes en compagnie de Pauline Fraisse, qui est professeure d'anglais à Kunming, dans le Yunnan, et qui s'étonne chaque jour de cette vie chinoise intrigante qu'elle dessine pour ne pas en perdre une miette. Alors Pauline Fraisse, pourquoi la Chine ?
C'est une intuition en fait, c'était pas vraiment explicable, mais depuis très longtemps j'étais attirée par ce grand mystère. Je pense que la langue a quelque chose à faire là-dedans, le mystère des caractères et aussi la grandeur du pays et l'impression qu'avec une vie entière j'aurais pas encore épuisé le sujet. Et donc j'ai fini par partir en 2003, j'ai pris une année sans solde du travail où j'étais à Paris dans la communication pour faire un tour du monde et j'ai mis en premier le Japon et la Chine, en passant de l'un à l'autre en bateau d'ailleurs. Et donc j'ai passé j'avais un mois de visa, un premier mois en Chine, puis j'ai continué le voyage en Asie du Sud-Est et là j'étais tellement obsédée par la Chine que j'ai modifié mes plans pour retourner un deuxième mois de visa en Chine. Où j'ai décidé cette fois d'arrêter de bouger et de me fixer quelque part, et c'était au Yunnan, au sud, donc la partie de la Chine la plus au sud-ouest, coincée entre le Tibet, le Laos, le Vietnam et la Birmanie. Et donc là, j'ai passé une semaine à Kunming et trois à Dali, dont une chez des moines à faire du kung-fu, et ensuite 15 jours à faire du tai-chi deux fois par jour au pied d'une muraille, au lever du soleil et au coucher du soleil avec une prof. Et j'ai acheté un manuel de chinois et j'ai commencé. Et j'avais vraiment envie cette fois de m'investir un peu.
Ah oui, ça veut dire que depuis tout ce temps-là, vous ne parliez pas chinois.
Non, j'étais partie faire ce tour du monde. Bon, j'avais appris, j'avais un guide de conversation et je savais dire bonjour, au revoir, merci.
Oui, ça va, oui, moi aussi, mais ça s'arrête.
Voilà. J'ai vite compris que ça ne m'allait pas mener très loin. Et donc ça, c'était en 2003, début 2004 quand j'y suis retournée. Puis j'ai continué le tour du monde, je suis partie en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud. Et là, j'étais de plus en plus obsédée par la Chine, c'est-à-dire que je continuais mon tai chi tous les matins, où que je sois, sur une plage en Australie, un trottoir à Buenos Aires, n'importe où, jusqu'à Paris où j'ai continué au retour.
C'est un tour du monde du tai chi.
Finalement, ça s'est c'est devenu un tour du monde du tai chi. Et en rentrant à Paris, j'ai repris mon boulot dans la com, mais à mi-temps. J'ai demandé à mi-temps. Je passais donc le matin à l'agence et l'après-midi, je faisais de la peinture. Parce que j'avais affirmé ce projet au cours de ce tour du monde.
Oui, c'est ça. Le tour du monde vous a permis de savoir que c'était la Chine qui vous attirait le plus et que vous aviez une veine artistique.
Oui, enfin, la veine artistique, j'en étais consciente, mais comment l'exprimer et comment m'en donner les moyens, le temps et l'espace, je n'avais pas trouvé comment résoudre l'équation. Et le tour du monde m'a permis de prendre du recul, d'écrire et de peindre d'ailleurs pendant un an, seule. Et d'élaborer des solutions concrètes. Et donc, c'est tout d'un coup, tout paraissait évident. Il fallait que je demande un mi-temps, que je m'inscrive à la mairie de Paris au cours pour adultes pour me former un peu plus activement que je ne le faisais avant. Et puis, la Chine est rentrée dans ma nouvelle vie parisienne d'une façon complètement inattendue aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'étais à vélo, j'ai balancé la moitié de mon appartement, j'ai gardé un rice cooker, un wok.
C'est radical.
Du riz, j'étais à Chinatown au moins une fois par semaine, voire trois. Tout ce qui passait sur la Chine, je le lisais. Enfin, j'étais complètement obsédée. Et de même que pour le tour du monde, je m'étais dit, si je le fais pas, ça va rester un fantasme, il faut que je le fasse. La Chine, c'est devenu pareil, il faut que je le fasse. Donc au bout de deux ans dans cette agence de com à mi-temps, cette fois, j'ai démissionné et je me suis dit, j'ai trois mois de préavis pour trouver un boulot de prof d'anglais. Enfin, de prof, mais... prof de français, c'est un peu plus compliqué. Il fallait que je retourne à la fac pour passer un diplôme de FLE, français, langues étrangères, alors que les anglo-saxons avaient l'air plus flexibles. Donc j'ai tenté ma chance en anglais, comme j'avais étudié aux États-Unis et vécu là-bas aussi enfant. Voilà, j'ai fait un CV, j'ai trouvé le boulot et je suis partie. J'ai rendu mon appartement, alors là, vendu, dégagé toutes mes affaires.
Emmener le wok ou...
Le wok, je l'ai gardé, figurez-vous. Voilà. J'ai gardé des choses un peu surprenantes et jeté des choses très précieuses. Mais voilà, j'ai mis une voiture d'affaires chez mes parents, notamment surtout mes peintures et mes carnets d'écriture. Et puis je suis partie sur les chapeaux de roue parce qu'il me manquait un papier pour le visa. Enfin, ça s'est fait vraiment... À la fin, j'avais plus d'appartement, j'avais mes deux valises, j'attendais le papier du visa. J'ai dû décaler mon billet d'avion et je suis partie vraiment sur les chapeaux de roue pour Kunming.
Donc c'était pas un choix, Kunming, c'était simplement le hasard du travail, non ?
Non, Kunming, c'était depuis ce tour du monde et ce retour au Yunnan, enfin vraiment le Yunnan m'avait marqué. Je cherchais en priorité à Kunming et je m'étais dit, je prendrai ce qui vient, si je trouve Kunming du premier coup, tant mieux, sinon j'irai n'importe où en Chine et je me débrouillerai ensuite pour me rapprocher de Kunming. Mais j'ai trouvé. Et donc je me suis retrouvée, je suis partie le 2 septembre et le 4 septembre j'étais en train d'enseigner à une classe d'étudiants, j'avais jamais enseigné de ma vie. en plein décalage horaire. J'étais logée sur un campus, et ce campus se trouvait être dans la banlieue de Kunming, donc une zone complètement fascinante qui...
Et qu'on retrouve dans, après, effectivement, dans vos dessins.
Ouais.
Est-ce que on pourrait dire que le voyage a été pour vous un accélérateur de création ?
Ouais, très clairement. Ouais. Depuis le début, depuis ce tour du monde déjà. Et ensuite, entre le tour du monde et la Chine, j'ai refait des voyages. Et à chaque fois, c'était immédiat, quoi. Un moyen, tout d'un coup, de peindre dans la rue, de dessiner, de me plonger dans le pays de façon beaucoup plus directe. Et j'en ai besoin, et je sais là que je vais continuer à le faire, et en priorité en Chine, parce que maintenant je parle un peu chinois, de mieux en mieux, et que j'ai toujours pas fini d'épuiser la question, mais évidemment.
Non, mais vous prendrez une vie, vous l'avez dit au début.
Voilà, absolument, donc il n'y a pas de problème.
Qu'est-ce qui vous inspire dans ce pays ?
Chaque jour, j'en découvre, j'essaye d'éclaircir ça un peu plus, mais je crois que... À la fois ça m'attire et à la fois c'est très négatif pour moi, la Chine. Et là, je suis rentrée il y a un mois et demi et j'ai vraiment besoin de faire un break, de me poser en France et d'arrêter avec ça parce que ça... Quelqu'un m'a expliqué que c'était très yang, que c'était un pays très masculin, très finalement pas forcément évident pour la créativité.
Ah oui.
Toute une part de féminité, de douceur, d'intuition qui n'est pas facile à exprimer. Et
la douceur à la chinoise, il est sûr que c'est un peu dur.
Ouais,
d'ailleurs,
c'est...
on en voit quelques exemples en ce moment avec les événements de Urumqi.
Ah ouais.
Et donc, effectivement, c'est un pays violent.
Ouais.
Au sens, je vois Emmanuel Chantebout qui opine du chef. Emmanuel, vous trouvez aussi que c'est un pays violent, la Chine ?
C'est-à-dire que les Chinois sont capables de s'énerver très très vite et on peut se retrouver facilement dans des situations dangereuses.
Ouais. Donc Pauline aussi, vous avez ressenti ça ?
Ouais, danger, je sais pas. Moi aussi, je me protégeais pas mal en tant que femme seule. Il y avait des risques que je prenais pas. Puis j'étais au Yunnan, donc il y a une apparence de douceur au Yunnan. C'est le climat, la réputation de la région.
C'est les gens
rythme.
Du sud.
C'est les gens du sud, voilà. Pour les Chinois, c'est les paresseux du Yunnan, quoi. Et les paysans. Mais malgré tout, il y a une forme de violence. Moi, je dirais que c'est plus dans une espèce de méfiance généralisée des gens les uns vis-à-vis des autres, qui fait que finalement, on ne se sent jamais complètement relâché ou en sécurité, et facilement, du coup, seul. Et si on est une femme seule, non mariée, à 32 ans, on vous regarde déjà comme un ovni, et ce n'est pas évident de se sentir porté par la société, quoi.
C'est dans les campagnes, ça, ou même dans les villes, même à Kunming ?
Alors, j'ai passé 2 ans et demi à Kunming, et puis là, cet hiver, j'ai déménagé à Lijiang, qui est complètement rurale, à 2 heures du Tibet, dans des hauts plateaux à 2004, hein, une zone complètement rurale et hallucinante, et à la fois une ville patrimoine de l'UNESCO, deuxième centre touristique après Pékin, donc extrêmement fréquentée. Donc je n'ai pas non plus complètement isolé. Mais c'est vrai que j'ai plus ressenti cet isolement à Lijiang qu'à Kunming, ça c'est clair.
Oui, parce qu'à Pékin, on ne le ressent pas du tout.
Oui,
ça n'a rien à voir. En fait, il y a au moins 3 Chines.
Oui, tout à fait. Kunming, ça serait un intermédiaire, parce que c'est 8 millions d'habitants, c'est une grosse ville. Mais pour les Chinois, c'est une ville. C'est la capitale d'une province rurale, isolée traditionnellement. Même si elle se développe aujourd'hui et qu'elle commence à se relier... notamment par des routes qui vont jusqu'en Thaïlande, il y a tout un axe qui passe par là maintenant, elle est quand même assez isolée et rurale.
À quoi ressemble cette ville, Kunming, si vous deviez nous la faire visiter ?
Alors écoutez, je profite pour vous dire que j'ai une exposition à Paris qui se termine vendredi, qui aura duré un mois et demi, qui s'appelle La fabrique de la ville sur l'urbanisme. Parce que ça a été
déjà, on peut commencer par aller à Paris, c'est moins loin.
Voilà, absolument.
Et c'est où ?
Et c'est au FIAP, FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, dans le 14e, au métro Saint-Jacques ou Glacière.
Très bien.
Ouvert tous les jours, entrée libre. Et, voilà. Et donc dans cette expo, il y a 2 parties. Une sur la banlieue de Kunming, où j'ai vécu comme prof d'anglais pendant un an et demi. Et ensuite, j'ai déménagé dans le centre de Kunming, enfin, une partie de Kunming. Et là, j'ai travaillé en atelier sur une deuxième série de villes plutôt imaginaires, parce que j'avais toutes ces visions de villes qui m'obsédaient. Enfin, tout ce que je voulais dire passait par des images de villes. Donc, je pense qu'effectivement, la question rejoint ça, parce que c'est une ville qui est assez intrigante, d'une façon. Elle est... J'ai l'impression, j'ai pas vu beaucoup de villes chinoises, hein. Je suis allée à Pékin, Xi'an, Chengdu plusieurs fois, puis après des petites villes de province, mais c'est quand même souvent le même processus qui se met en place, c'est-à-dire des grandes percées d'urbanisme quadrillé, monumental, côté monumental, comme l'idée de construire une muraille de Chine, bon, c'est déjà quelque chose qui en dit long, je trouve, sur ce pays. Donc on perd son casse et tout, et ensuite la vie locale se réapproprie l'espace de façon spontanée et anarchique. Et donc c'est ce contraste qui me frappait. Et un côté remembrement de l'espace et construction d'un deuxième bocage finalement, parce que c'est complètement chaotique en même temps.
Alors finalement, ces villes vous fascinent, mais vous avez choisi de vivre à la campagne.
J'ai choisi cet hiver parce que j'avais encore ce... Je me disais aussi, il faut que je tente, quoi. J'étais quand même attirée par l'expérience. J'ai toujours vécu en ville, j'ai toujours été dans des appartements. J'adore les villes, ça m'inspire, j'adore marcher dans une ville. Mais j'avais ce rêve quand même d'essayer d'avoir une maison, de faire pousser des légumes, de voir la vie rurale aussi en Chine de plus près. Et j'ai trouvé pour une bouchée de pain une maison complètement dingue avec une cour, des toits gris, des colonnes, plan traditionnel de maison, une salle de bain qui est complètement au fond, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'eau dans le circuit.
C'est selon le feng shui.
Voilà. Et qui était magnifique, où on faisait du feu cet hiver. Bon, par contre, en Sky, on est à 2004 d'altitude. Moi, j'avais des engelures. Quand même, deux hivers sur trois, j'ai eu des engelures au Yunnan.
Ça, c'est pas hiver, pratique pour dessiner.
Et non, c'est pas pratique, et pour rien du tout. Donc, cet hiver, je fais pas mal d'écriture, parce que j'écris aussi. Donc, j'étais sur ordinateur avec des mitaines. Et le soir, le seul moment de chaleur, c'est après le dîner, on fait un petit feu au milieu de la cour, pas dans la maison pour pas mettre le feu, sous les étoiles, c'est absolument grandiose, mais vous avez deux heures de chaleur, et ensuite vous mettez sous trois couettes avec une bouillotte, et vous priez pour ne pas avoir envie de vous lever au milieu de la nuit, pour aller aux toilettes qui sont à 5 minutes de là.
Oh, et vous n'avez pas de kang, donc avec le chauffage en dessous, sous le lit?
Eh non, j'avais pas ça, j'avais une bouillotte, c'est pas mal la bouillotte quand même. Une fois qu'elle est bien sous trois couettes, elle peut tenir jusqu'au matin.
Oui, alors il y a un côté magique et difficile à la fois.
Oui, ouais, c'était difficile.
Alors ça veut dire que vous n'êtes plus professeur d'anglais?
Non, je l'étais pendant un an et demi, et ensuite je suis passée donc dans cet appartement de Kunming, parce que j'avais économisé suffisamment d'argent, malgré sur le salaire chinois que je gagnais, qui était rien du tout, qui était l'équivalent de 440 euros sur 10 mois de l'année. Donc j'avais 10 mois sur 12 de travail, le reste du temps je pouvais voyager, je me suis fait trois grands voyages en Asie du Sud-Est et dans les zones tibétaines du Sichuan, du Gansu et du Qinghai, où j'ai fait des carnets de voyage en fait à chaque fois, qui vont être publiés en novembre prochain. Aux éditions Reflets d'ailleurs, seront publiés pour la Biennale du carnet de voyage à Clermont-Ferrand et j'aurai un stand là-bas.
Très bien.
Voilà, j'ai écrit un roman aussi qui vient de paraître, qui s'appelle Vol intérieur et qui est basé sur l'expérience du tour du monde dont je parlais tout à l'heure, sur un changement de vie et un couple qui se retrouve face à un appartement intégralement cambriolé et comment ils réagissent face au vide.
Comment on recommence finalement une vie, sauf que le cambriolage c'est forcé, vous l'avez choisi.
Absolument.
Ça change tout. Mais alors, finalement, pourquoi le dessin plutôt que la photographie? Les voyageurs souvent photographient, bon, d'autres dessinent, mais vous, pourquoi vous avez privilégié le dessin?
Oui, je l'ai privilégié et même, j'en porte même plus d'appareil photo en voyage.
Non, ça ne sert plus à rien.
Ouais, par contre, j'ai toujours un appareil photo, enfin pas là, mais à Kunming en tout cas, j'avais toujours dans la vie de tous les jours sur moi pour prendre des photos, mais plus comme un objet de travail, un outil de travail pour m'entraîner à faire des cadrages ou des détails dont je peux me resservir dans des peintures après, etc. Mais ou des séries sur des détails de près, enfin pas des choses figuratives, pas forcément. Donc le dessin, je crois que c'est un moyen de se positionner soi-même dans l'espace et dans la population finalement, et d'établir un contact avec cet environnement beaucoup plus lent. C'est aussi une façon, j'aime bien la lenteur, c'est méditatif finalement le dessin.
Mais il y a un petit côté tai chi.
Ouais, voilà.
C'est le tai chi du crayon.
Le tai chi du crayon, absolument.
Comment réagissent les Chinois quand ils vous voient dessiner? Parce que vous aimez bien cette imprégnation, mais si vous vous plantez au milieu de la rue, ça fait quoi?
Ça fait toujours un effet assez étonnant. Et surtout, la première fois que j'ai peint dans la banlieue, toute la série que j'expose au FIAP, la première série, il y a une partie qui est en assez grand format, en 110 par 80. Et c'était la première fois que je faisais du si grand format en extérieur, donc planté dans le décor. Je partais en vélo avec un rouleau de papier, un grand chapeau, tout un équipement contre le soleil. Je me prenais une insolation une fois sur deux. Et je posais ça par terre, je me mettais sur un sac plastique, je mettais des cailloux dans les coins pour pas que la feuille s'envole, et des pots d'acrylique. Et là, j'avais tous les villageois, parce que c'était un village, la banlieue de Kunming, qui étaient autour, voire devant, qui se mettent devant, donc je suis obligée de leur expliquer que je suis en train de regarder devant. Et je me mettais un MP3 dans les oreilles, là, quand même, cette fois. Pas en voyage, mais là, cette série, j'avais de la musique à fond dans les oreilles, parce que je voulais pas les entendre.
Ah,
je voulais arriver à me concentrer. Et puis, j'étais dans un état, en plus, cette série, c'était un peu un état de colère, je pense, de fascination et de répulsion pour cette zone qui était vraiment immonde. Les gens comprenaient pas, parce que c'est une zone qui est fondamentalement laide. Il y a des égouts à ciel ouvert. La plupart du temps, je peignais pendant 3 heures, j'avais l'odeur en pleine narine. Il y avait des centres high-tech et des usines plein la zone. Tous les jours, des gens qui faisaient brûler des ordures le soir, des gamins qui fouillaient les décharges. Enfin, des images qu'on a l'habitude de voir au Caire ou je sais pas où, on les voit jamais pour la Chine, mais c'est là, quoi. Et donc les villageois comprenaient pas. Et en même temps, ils pouvaient passer une heure, il y en avait qui restaient 2 heures, comme ça, debout, à regarder, ou accroupi à côté de moi.
Ça veut dire que ça le fascinait.
Oui, ça le fascinait. Une fois, j'ai croisé un peintre chinois aussi, c'était marrant.
Et juste une seule fois?
Oui, juste une fois. C'était drôle parce qu'on se demandait d'où il sortait. Il y a toujours des trucs comme ça en Chine, les gens sortent de nulle part.
Mais vous ne cherchez pas le contact avec les artistes chinois particulièrement vous...
Alors j'ai commencé, évidemment, au bout de quelques mois, j'ai senti quand même le besoin d'échanger. Et c'est ça qui m'a manqué. Il y a deux choses qui m'ont vraiment manqué de la France, c'est les cours de danse et les échanges avec mon groupe de peinture et les amis plus intellectuels ou artistes avec qui échanger, quoi. Donc on a beaucoup communiqué par email. Mais là-bas, c'était une forme de retraite, finalement. C'est aussi une façon de me mettre en retrait par rapport à la mode. Comme je travaillais dans la communication, j'étais à Paris, j'étais toujours au fait je lisais la presse, c'était mon boulot, quoi. Donc j'étais là, tout d'un coup, coupée du monde, je lisais plus la presse, j'avais plus mes vêtements, j'avais plus...
Construire autre chose,
voilà, une autre identité.
C'est peut-être ça que vous a appris la Chine, pour le dépouillement.
Oui, absolument.
Pauline Fraisse, merci. Alors Yunnan, Chine du Sud, c'est jusqu'à aujourd'hui à la librairie Autour du Monde à Lille, au 15 rue Saint-Jacques, et à Paris, au FIAP, c'est...
Jusqu'à vendredi.
Parfait.